Derrière mon masque, je me reconnais à moitié. Mais c'est, bah, c'est agréable de vous avoir vu en direct ce matin. Et on salue aussi ceux qui nous suivent par Zoom, qui n'ont pas ce privilège d'être là. C'est vrai que ça perturbe un peu de changer de lieu, de changer de mode de rencontre les dimanches. Merci Jacques de nous avoir conduit dans cette réflexion sur le psaume 51 qui nous apprend beaucoup sur la nature humaine et sur nous-mêmes. Dans la suite normale des choses, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021. Merci. Que je passais un coup de téléphone à quelques personnes, je suis tombé sur une sœur qui m'a dit ceci. Alors, j'ai pas très bien entendu parce que la connexion n'était pas très bonne, mais je crois que j'ai compris ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit : j'ai donné un grand coup de pied dans la boîte de 2020. Alors, j'ai compris qu'elle s'était fabriqué une boîte, elle avait marqué 2020, elle a mis un grand coup de pied là-dedans. Elle m'a dit, je ne veux plus entendre parler de 2020, bienvenue 2021. Ça va rester dans ma tête quelque part. Alors il n'y a pas eu que des mauvaises choses en 2020, hein. Il y a eu aussi des bonnes choses, des gens qui se sont donnés au Seigneur, et puis Dieu voilà, nous a pas plongé dans les ténèbres sans nous répondre. Et c'est vrai comme déjà qu'il y a aussi une lueur d'espoir et d'espérance. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Concernant 2021, ben, je ne vais pas rajouter aux informations. Hein. Si 2020 a vu une situation de la pandémie où les prévisions les plus pessimistes ont été largement dépassées, qu'en sera-t-il pour 2021? Voilà. Avec ça, vous allez vous débrouiller. Hein. Si cette situation sanitaire reste très préoccupante, c'est notre santé spirituelle qui est au cœur de la pensée de Dieu. Et ce matin, c'est ce que je voudrais vous partager. Pour Dieu, il y a la situation dans ce monde. Et c'est vrai qu'on n'est pas tout feu, tout flamme. Hein. On a le moral dans les chaussettes, comme on dit. Hein. Mais ce qui va intéresser le Seigneur, c'est comment nous nous sentons, comment sommes-nous dans notre situation spirituelle. Luc 9, versets 57 à 102, nous raconte une histoire qui s'est réellement passée et qui va nous suivre ce matin. Pendant qu'ils étaient en chemin, nous dit l'évangéliste Luc, quelqu'un vient à Jésus et lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Alors, je ne sais pas si c'est les bonnes décisions du début d'année qui durent 2-3 jours. En tout cas, le Seigneur lui dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre dit à Jésus, Jésus dit à un autre « Toi, suis-moi. » Et cet homme répondit « Permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. » Quand même. Mais Jésus leur dit, laissez les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Bonne année. Voilà, ce verset qu'a cité Jacques, donc il n'était pas au courant, hein, et moi non plus, c'est sur ce verset que je voudrais baser ce matin le message. Il y a parfois des moments décisifs, vraiment, dans la vie d'un homme, qui ne reviennent pas, forcément, et qu'il faut saisir. Même face à nos devoirs les plus grands, les plus sacrés, eh bien, comme ensevelir un père pour cet homme, comme s'occuper de sa famille ou être absorbé par les siennes, eh bien, notre engagement spirituel doit rester une priorité pour nous. En 2020, comme en 2021. Jésus ne dit pas de délaisser sa famille, absolument pas. Il pose plutôt la question des priorités. Quelle est ta priorité ? Le vaccin ? Oui, d'accord, mais il y a une priorité encore plus grande que celle-ci. Jésus nous parle de l'engagement sérieux du chrétien en prenant l'exemple que les gens à leur époque connaissent, c'est celui de l'agriculteur, compris par tous. Aujourd'hui, il pourrait dire « Personne sur autoroute ne tire le frein à main pour faire demi-tour parce qu'il s'est trompé de sortie. » C'est dangereux. Alors Jésus nous parle ce matin de l'engagement du chrétien. Et il prend l'exemple d'une charrue qui laisse une trace et qu'il faut manier. Hein ? Jésus répondit, celui qui regarde en arrière, eh bien au moment où il se met à labourer, ça c'est dans la version semeur, eh bien avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Alors, à travers trois exemples, nous allons essayer de débroussailler ce champ. L'exemple de Caïn, l'exemple de la femme de Lot et l'exemple de Jonas. Alors Caïn, intéressant, c'est le premier agriculteur. Lui, il connaît le travail de la terre. Mais Caïn est allé très loin. On connaît l'histoire, hein, quand Dieu a demandé un sacrifice à Caïn et à Abel, et puis ben, ils ont tous les deux apporté un sacrifice. Mais le sacrifice d'Abel, que Dieu avait validé, parce qu'il a été apporté avec un cœur plein, eh bien, n'a pas fait la joie de son frère Caïn. Et le voilà devenu meurtrier de son frère. Alors Dieu nous laisse toujours la liberté de répondre à son appel. En fait, c'est Dieu qui va chercher Caïn. Alors Dieu dit à Caïn, après la mort d'Abel, « Qu'as-tu fait, Caïn ? La voix de ton frère crie jusqu'à moi. » C'est dans Genèse 4, verset 10. « Maintenant tu seras maudit loin du sol, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur terre. » Et Caïn dit à l'Éternel, « Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses loin aujourd'hui du sol arable. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Et l'Éternel dit à Caïn, « Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Voilà que Caïn a commis l'irréparable. Il arrive malheureusement parfois que les hommes commettent l'irréparable, comme David avec Uri, l'irréparable. Mais ici, en fait, le problème de Caïn, c'était qu'il a refusé l'appel de Dieu. La charrue est devant lui, mais Caïn fuit cette charrue. Il ne veut même pas toucher la promesse que Dieu lui fait. L'appel que lance Dieu, c'est un appel à la repentance. Et c'est le premier message de Jésus, hein. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est ce même message qui sera encore proclamé en 2021, parce qu'il ne change pas et parce qu'il est toujours d'actualité. Cet appel est un appel d'amour. Dieu nous dit, et Dieu te dit, et Dieu me dit, reconnais ta faute, reconnais ta misère. Comme il dit à Caïn, Caïn, qu'as-tu fait ? Alors il est normalement dans cette situation en droit d'attendre que nous reconnaissions nos fautes. Mais le problème de Caïn, c'est que la charrue de Dieu est quelque chose qu'il ne faut surtout pas toucher. Oh là là, elle est pénible cette charrue pour lui. Et on voit que Caïn pleure sur lui-même. Ah, s'il y en a qui me trouvent, hein, qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Je vais mourir. La sentence de Dieu est juste. Tu ne me donneras plus l'abondance de la terre. Mais Caïn a les yeux rivés sur lui. Il rejette cette réconciliation proposée par Dieu. Il n'y a pas chez lui de prière de pardon. Il n'y a pas chez Caïn cette acceptation que ce qu'il a fait est vraiment mauvais. Et il s'endurcit. Caïn, c'est l'homme du monde. L'homme du monde qui pense que sa vie faudra fonctionner avec ses propres critères, ses propres plans. Le moi. Ah, le moi. qui aime bien régner, trôner, décider, réfléchir, faire des projets, mais sans Dieu, loin du champ, loin de la charrue. Caïn, c'est celui qui fuit. Il part avec cette promesse de Dieu que s'il venait à être tué, il serait vengé. Alors je ne sais pas si ça doit le satisfaire. En tout cas, nous voyons là un Caïn qui est loin du plan merveilleux de Dieu. Vous savez, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Caïn a semé de la haine, il le moissonnera. N'espérons pas qu'en semant de mauvaises choses, qu'on récolte de bonnes choses. Dans notre champ de 2021, il y aura des mottes de terre, bien dures parfois. Vous savez, ces rancœurs qui restent, ces non-pardon. Et peut-être que, instinctivement, on aura envie de laisser cette charrue et puis passer à autre chose parce que le terrain est dur. On aura besoin d'être visité par Dieu encore et de briser, et d'être brisé devant lui. D'amener nos rancœurs, nos amertumes, la dureté de nos cœurs, afin d'aplanir ces sentiers, cette surface. Et c'est un mal nécessaire que Caïn a fui, mais que Dieu nous demande de faire. Si nous voulons être en bonne santé spirituelle, il faudra peut-être traiter ce qui est dur au fond de nous. Et puis, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Alors là, c'est l'histoire d'une femme, la femme de Lot. Vous savez, en Genèse 18 et 19, c'est le jugement contre le monde. Et Dieu sait que ce monde est terriblement injuste, avec des lois injustes. Même s'il cherche le bonheur de l'homme, ce monde a mis Dieu de côté. Alors que Lot a regardé la ville de Sodome et Gomorre plutôt que le champ qui était devant lui, eh bien voilà que Lot s'est installé avec sa famille. C'est celui qui a regardé ce qui était beau, ce qui était attractif, ce qui était attirant. Et voilà que Dieu, eh bien lui a regardé le cœur des habitants de Sodome et Gomorre et il a prononcé un jugement. Alors je ne sais pas si cette pandémie est un jugement de Dieu sur ce monde. Je ne suis pas prophète comme au sens de l'Ancien Testament. Et je me dis que ça donne quand même à réfléchir sur notre irresponsabilité. Le jugement de Dieu contre Sodome et Gomorre a été prononcé parce que le péché de Sodome et Gomorre était si grave que Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorre. Seuls Lot et sa famille ont trouvé grâce. D'ailleurs, Pierre nous dit que ce juste était profondément affligé par la conduite dégradée de ces criminels. Alors voilà que les anges interviennent chez Lot et puis disent « Tu dois fuir maintenant !» Et surtout, Genèse 19, verset 12, verset 17, pardon, « Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit, échappe-toi pour ta vie et ne regarde surtout pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. » Le message était clair. Tu dois avancer sans regarder. À peine avait-il échappé aux flammes, à peine était-il sorti du danger, que voilà que la femme de Lot regarda en arrière. Ah. Les mains sur la charrue. La délivrance était là, et instinctivement, elle regarde en arrière. Et elle fut changée en statue de sel. D'ailleurs, Jésus, dans les temps de la fin, dans son discours, parle de la femme de Lot. Elle avait bien entendu. La question était qu'elle avait aussi obéi, mais pour combien de temps? Elle a fait comme les autres. Vous savez, on peut faire comme les autres. Aller à l'église, appartenir à un groupe. Mais à un moment donné, c'est plus fort que nous. Quand la vie spirituelle est négligée, Tôt ou tard, il en ressort une décision qui n'est pas selon la pensée de Dieu. C'était plus fort qu'elle. Elle s'est retournée. Jésus a bien dit quiconque met la main à la charrue et qu'il se retourne en arrière. Il existe donc dans ce monde des choses qui vont inévitablement freiner notre avancement spirituel. Vraiment. Ce monde, avec ses promesses, alors des fois on entend « Ah, le péché, quelle horreur !» Mais mes frères et sœurs, si le péché était vraiment une horreur, on l'éviterait. C'est attractif de pécher. C'est sympathique. Et voilà que la femme de Lot était... Elle a laissé des choses qui étaient très bonnes pour elle. Vous savez, on retrouve ça chez le psalmiste. Il a envié l'insensé. Il a à un moment donné pensé que le méchant avait fait le bon choix. Puisque lui, en tant qu'homme spirituel, souffrait de ses choix spirituels. Alors pourquoi cette femme s'est-elle retournée? Pourquoi a-t-elle regardé en arrière? Curiosité, on dit que les femmes sont curieuses. Possible, les hommes aussi. Peut-être par regret. En tout cas, elle a fait une chose qu'il ne fallait pas. Elle a désobéi. Vous savez, un peu comme le peuple d'Israël, le peuple sorti du désert, et cette vieille devise qui revient, c'était tellement mieux en Égypte. C'était tellement mieux là-bas. Pourquoi nous as-tu fait venir ici, Moïse, pour nous faire mourir dans le désert? Après, c'est pourquoi, Seigneur, tu nous as fait venir ici. Le regret d'avoir laissé les choses du monde. La nostalgie du passé, de notre vie ancienne, ça nous guette aussi. On commence à se rappeler, vous savez, les bonnes choses que l'on pouvait faire quand on n'était pas chrétien. Et puis on les compare avec le présent. Et puis on se lamente. Et on regarde en arrière. Le regard se détourne. La charrue dévie de sa trajectoire. Un seul regard va suffire à la femme de Lot. Dans ce chant de 2021, la charrue que nous tenons rencontrera des difficultés, c'est certain. On aura des découragements. Moi, je ne suis pas sûr que tous les chrétiens sont contents du confinement et vivent en surfant sur les situations. Nous aussi, parfois, on a le moral qui est très bas. Vous êtes d'accord avec ça? Eh oui. Il y aura des regrets aussi en 2021. Mais gardons-nous de ressembler à la femme de Lot ou à ce peuple d'Israël dans le désert. Avec cette vieille rengaine. C'était mieux avant. Il est dangereux d'être nostalgique de notre passé. Parce que quand nous devenons nostalgiques, même pour les serviteurs de Dieu, eh bien, nous n'entendons plus les directives de Dieu. Nous devenons un peu sourds à son appel. Il nous faut avancer avec le Seigneur et avec lui. On ne peut pas choisir de maître, et le passé peut aussi être maître, et un maître cruel. Parce que la femme de Lot, en réalité, ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'elle était sur le point d'être sauvée. Peut-être encore 100 mètres ou 200 mètres. En tout cas, son cœur était encore à Sodome et Gomorre. Mon ami, si ton cœur est encore dans le passé, il va produire du poison tous les jours de ta vie. Sauvée de l'incendie, cette femme mourra de manière insensée sur le chemin du salut. Son voyage n'a pas abouti et son chariot, sa charrue s'est brisée. Malheureuse femme qui n'a pas obéi aux ordres de Dieu, ne regarde surtout pas en arrière. Résultat, elle est restée pétrifiée. Alors on a vu Caïn, loin de Dieu. La femme de Lot qui a fait la moitié du chemin seulement est maintenant l'un de mes prophètes préférés. Alors lui, c'est Jonas. Jonas, j'aime bien. C'est vraiment le gilet jaune, Jonas, vraiment. C'est le Louis de Funès, Dieu, qui n'est jamais content. L'homme qui a regardé ailleurs Alors lui, c'est très simple. Il reçoit un ordre de Dieu, il tient la charrue, mais il dit à Dieu, c'est moi qui va conduire cette charrue, là où je veux. C'est le chrétien engagé qui est reconnu par le royaume du Nord, au temps d'Ozias, par le royaume du Sud, au temps de Jéroboam II. Et puis cet homme, dans son confort, on peut dire c'est une église, on peut dire c'est un chrétien, on peut dire, voilà, on peut s'identifier à lui. Dans son confort, il reçoit un nouvel appel de Dieu. Quitte ce que tu as, voilà le chemin que j'ai. Peut-être cette année, tu recevras, ou l'église recevra, un appel particulier qui nous dérangera. On est gêné parce qu'on est ici, hein, on serait tellement mieux chez nous là-bas. Hein. Tout fonctionne mieux chez nous, évidemment. Mais ce champ-là, c'est Dieu qui l'a choisi. Voilà un Jonas, un homme qui n'a pas trop envie de changer ses habitudes. Alors il part. Il part ailleurs. Il a décidé de faire la croisière s'amuse plutôt que d'aller à Ninive. Quand Dieu dirige nos vies, est-ce que vous êtes toujours d'accord? Moi pas. Et je lui dis, et je suis content qu'il y a Jonas qui prend un peu ma défense, vous voyez? Je ne suis pas d'accord avec toi, Seigneur. Et oui. Mais Dieu ne nous dirige jamais pour notre malheur. Et ça, nous l'oublions. Nous pensons mieux construire notre bonheur que lui. Alors que faisons-nous quand Dieu nous appelle à quelque chose de précis? Eh bien, on rajoute des activités aux activités, vous savez. Bonne manière de faire ce que Dieu demande en ne faisant pas ce qu'il veut. Et voilà, Jonas dans des activités, il s'en va ailleurs. Résultat, la tempête. Et là, j'aime ce fatalisme chez Jonas. Au fond de la cale, il sait très bien ce qui se passe, lui. Absolument. De toute façon, il dit à Dieu, tu fais ce que tu veux. Évidemment, nous croyons à la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Mais que de temps perdu pour ce pauvre Jonas. Dieu fait ce qu'il veut. Tout le monde est d'accord. Il fait ce qu'il veut, nous dit le psaume 115. Tout ce qu'il veut. Mais la question de Dieu, c'est pas « je fais ce que je veux ». La question que Dieu te pose, c'est « je fais bien sûr ce que je veux, mais là, je veux faire avec toi. Est-ce que tu es d'accord ?» Jonas n'était pas d'accord. Alors, par sa désobéissance, Jonas a créé une tempête. Vous savez, on peut créer une tempête par deux choses. Soit par notre obéissance à Dieu, soit par notre désobéissance à Dieu. Alors je m'explique. Quand nous obéissons à Dieu, nous créons une tempête. C'est le diable qui l'envoie. C'est la tempête de la tentation. Ne pensons pas, parce que nous sommes chrétiens, que nous sommes protégés de tout. Hein. Même le roi David est tombé. Un grand roi, un homme selon le cœur de Dieu. Et voilà qu'ici, par la désobéissance à Dieu, c'est Dieu qui a envoyé la tempête à Jonas. Nous sommes seuls, mon frère, ma sœur, seuls devant Dieu, à savoir au fond de notre cale où nous en sommes avec Dieu, en réalité. Où regardons-nous quand ça ne va pas? Même si tenir la charrue est difficile, une charrue ne peut pas couler. Elle reste ferme sur la terre. Même si 2021 va connaître des moments difficiles pour nous. Et ce champ 2021 qui se présente, eh bien, le Seigneur nous donnera de faire des choix d'obéissance. Il nous obligera à sortir de notre quotidien, qui nous coûtera certainement, mais qui nous sera salutaire. Alors on peut dire, oui, mais je suis un enfant de Dieu, je connais tout cela, hein, mais je sais ce qu'il faut faire, mais il y a le petit mais. Parfois, il y a des moments difficiles qui sont là pour nous réveiller, pour ne pas nous laisser endormis. Et je pense qu'on peut bénir Dieu de ce qu'il prend notre vie en charge. Celui qui regarde en arrière et qui met la main à la charrue n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Lorsque Jésus a dit ces paroles, bien sûr, il s'est adressé à ses propres disciples. C'est eux qu'il visait à travers l'histoire de cet homme. Ils n'ont pas forcément compris. Jésus veut dire que notre vie spirituelle est ce, est une priorité pour lui. Et cela a coûté quelque chose. Vous savez, cette charrue, c'est le bois de la croix pour Jésus. Quand on lui dit qu'il ne faut pas regarder en arrière, il n'a pas regardé la gloire qu'il a laissée. Et bien plus, il s'est attaché à cette charrue jusqu'à la fin. Il a payé lui-même le prix le plus élevé par sa mort à Golgotha, afin que nous n'ayons rien à changer et à échanger contre le salut gratuit. C'est cela l'évangile de grâce, qui sera encore présent jour après jour dans nos vies. Mais cette grâce est aussi un appel à le suivre, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit et à rechercher chaque jour de vivre de son amour. C'est cela la plus grande urgence pour chacun d'entre nous. La plus grande urgence quotidienne pour nous, notre santé spirituelle. La question fondamentale n'est pas « Est-ce que le Seigneur accomplira ses promesses pour moi en 2021 ?» La question fondamentale est « Est-ce que moi je suis prêt à lui faire confiance en saisissant cette charrue pour l'année qui vient ?» Comme dit l'apôtre Paul, « À courir vers le but de la vocation céleste. » Alors cette sœur a mis un grand coup de pied dans cette boîte 2020. Mais c'est pas dans cette charrue-là qu'il faut mettre un grand coup de pied. La charrue dont nous parle Dieu, c'est cette main tendue. Quelle sera l'attitude de ton cœur avec Dieu? Caïn a rejeté l'appel de Dieu. La femme de Lot a regretté le passé. Jonas, lui, avait seulement le désir d'en faire qu'à sa tête. Et les disciples, eh bien, sont-ils laissés interpeller par la parole du Seigneur? La charrue est posée, le champ est devant nous. Alors, tenons-nous à cette charrue et aux promesses de Dieu. Et ne regardons pas, comme dit Esaïe, avec des regards inquiets. Vous savez, comme si on était sans défense. Car Dieu lui-même dit, en Esaïe 42:10, « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis moi-même ton Dieu. » Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite victorieuse. Merci Seigneur pour ta fidélité. Prions.